Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute.
Salut Caroline, merci de participer à cet échange du coup. Je suis ravi de t'avoir ici avec moi. Donc tu es la fondatrice d'Enoya Éducation.
Oui, tout à fait. J'ai construit un programme qui accompagne les jeunes à la connaissance de soi et à la compréhension des autres.
Ok.
Voilà, qui a été diffusé dans les collèges et lycées et dans l'enseignement supérieur. Pour développer les compétences psychosociales et faire en sorte que les jeunes puissent avoir une pleine conscience de leur singularité et s'autoriser à avoir des forces, à avoir des talents et être le meilleur d'eux-mêmes, en fait, pour la société.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce projet ?
Alors, il y a 18 ans de travail dans l'enseignement supérieur auprès des jeunes des écoles de commerce, des écoles de management et d'ingénieurs. Où je voyais les jeunes qui étaient assez perdus quand on leur demandait de se vendre, entre guillemets, à un recruteur. Et quand je leur disais, qu'est-ce que tu proposes, toi, de différent d'un autre candidat ? Et les jeunes me disaient, je sais pas, j'ai pas d'idée, je sais pas ce qui se passe, j'ai une école de commerce, mais je suis pareil que les autres. Et justement, là, ça devenait assez intéressant parce que il fallait aller chercher la granularité, la différence. J'ai souvent tendance à dire qu'un individu, c'est un collier de perles dont les perles sont rangées différemment, de couleurs différentes, de formes différentes, et ce qui fait toute la complexité de notre personne, en fait. Mm-hmm. Mais on a des perles communes avec d'autres, on a des perles plus petites, des perles plus grosses que d'autres, et c'est ça qui fait qu'on est assez complémentaires pour travailler sur des projets communs. Et ça, les jeunes, ils n'arrivent pas à l'écrire, à le définir, à le structurer.
Ouais.
Donc avec Enoya, on a structuré la réflexion sur la singularité et l'unicité des gens.
Super. Et comment tu as atterri du coup, dans cet univers de l'enseignement supérieur du coup, il y a 18 ans, il y a 20 ans, je crois.
Il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. En fait, j'ai un BTS assistant de direction. À l'époque, je n'étais pas super douée dans les études. Moi, j'avais...
C'est quand même bien, BTS.
Ouais, mais j'étais en fait une jeune femme, une jeune fille plutôt tranquille. J'aimais bien, comme on dit maintenant, chiller.
Ouais.
Et j'en faisais pas beaucoup parce que je savais que ça fonctionnait plutôt bien. J'écoutais beaucoup, beaucoup en classe.
D'accord.
Et c'est ça qui m'a sauvée, en fait. Comme j'étais très attentive en classe, les cours, les révisions et tout ça, ça m'intéressait pas.
Les devoirs, comme on dit, ouais.
ça m'intéressait pas trop. Puis tout de suite, après le bac, un bac sciences médico-sociales qui oriente beaucoup vers les métiers... de la santé. Mmh. Moi, j'étais plutôt partie sur l'éducation des jeunes enfants. Et puis finalement, j'ai atterri dans l'éducation des grands enfants.
Mmh.
Et puis, en fait, ce bac-là m'a poussée à aller vers un BTS assistant de direction en alternance. Tu vois, mettre tout de suite les mains dans le cambouis, voir ce que ça donne quand tu apprends et que tu fais direct derrière.
Mmh.
Et je l'ai fait dans le milieu automobile.
D'accord.
Chez Delphi Diesel System, une boîte qui fait des porte-injecteurs dans les voitures.
Ouais, un domaine un peu industriel. Quoi.
Ouais, domaine industriel,
c'était où?
J'étais à La Rochelle.
À La Rochelle.
Ouais. Et en fait, j'étais dans le secteur RH, puisque j'étais assistante de formation.
D'accord.
Dans cette boîte. Et on a formé des régleurs, des opérateurs à différentes méthodes. Et on était à peu près, il y avait à peu près 1000 personnes à former, quoi. Donc ouais. J'étais dans les RH, j'étais dans les ressources humaines quand même. Et c'était quelque chose qui était intéressant. Et par la suite, après mon BTS, que j'ai obtenu haut la main, puisque finalement, le concret arrivait et ça me permettait vraiment de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, c'était vraiment assez pratique, après pratico-pratique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts ?
Ouais.
Est-ce que je poursuis mes études ? Et à ce moment-là, il y avait besoin aussi... Il n'y avait pas tant d'alternance que ça.
Ouais, ce que j'allais te demander, ouais. Parce que c'était
donc,
seulement peut-être les BTS, hein, je pense que c'était
ouais,
précurseur à ce niveau-là.
Exactement, tu n'avais que ça au départ. Et après, on pouvait faire école de commerce ou école d'ingé. Moi, je n'étais pas du tout partie sur l'ingé. Et je me suis dit, je vais aller en Angleterre. Je vais partir avec mon baluchon sur le dos et je pars en Angleterre 6 mois grâce à une asso qui m'a envoyée là-bas. Et là, j'ai aussi gagné en maturité, parce qu'à l'époque, j'avais que 22 ans. Et c'est aussi là que tu apprends à te forger ton caractère, à forger voilà, ta perception de la vie, ce qui se passe assez difficilement. En Angleterre, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper éclectique. J'étais à Birmingham.
D'accord. Donc, je suis jamais allée. Moi, j'étais en Irlande, tu vois, pendant mes études. C'était sympa aussi, mais...
Ouais, c'est hyper chouette.
C'est vrai que ça forme de voyager.
Ça forme vachement. Ouais. Puis tu apprends d'autres cultures, tu vois comment les gens vivent, tu vois comment toi tu vivais et tu compares et tu apprends, tu nourris.
Puis tu apprends l'anglais aussi, c'est quand même important.
Un peu.
Un peu, ouais.
Ça reste pas trop, mais un peu quand même.
C'est vrai que c'est pas forcément parce que tu pars quelques mois à l'étranger que ça y est, tu reviens. C'est la fameuse question, alors est-ce que t'es bilingue quand tu rentres chez toi?
T'es meilleur.
T'es meilleur.
Ça c'est sûr, mais t'es bilingue, c'est pas sûr. Et puis en revenant, j'ai postulé à essayer de avoir un job dans les agences de recrutement qu'on appelle maintenant les agences de recrutement. C'était des agences d'intérim à l'époque.
Ouais.
Et en fait, ces agences de recrutement, je les sollicitais tout le temps. Je leur disais, est-ce que tu as quelque chose pour moi ce matin? Est-ce que tu as quelque chose pour moi ce matin? Alors j'ai fait des inventaires chez Leroy Merlin avec des comptages de vis et tout ça, mais j'ai aussi fait des missions super intéressantes dans l'école de commerce de La Rochelle à l'époque.
D'accord.
Où j'ai saisi des contacts. Et puis après, on m'a dit, tu peux faire autre chose. Tu peux être assistante marketing.
Ouais.
Et là, ça a commencé à... Moi, ma place a commencé à se faire.
Ouais.
Et à l'issue de plusieurs mois de CDD, on m'a proposé un CDI en tant que chef de projet.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à creuser le monde des écoles et je me plaisais mais vraiment beaucoup.
Ouais.
Sauf que le market, je ne connaissais pas trop. Donc, j'ai fait une formation en parallèle à l'ESSEC.
D'accord. Que tu as financé avec ton salaire, du coup?
Exactement.
Ou avec un dispositif?
Ouais, complètement.
Okay, toi-même.
Et puis à l'issue de cette formation en management et développement commercial, j'ai eu des missions de direction. Donc en fait, mon poste de direction est arrivé au fil de mon cursus et au fil de mes formations continues, finalement.
Je comprends. Et ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est que quand tu cherchais un travail, tu as finalement demandé à d'autres personnes de t'aider à trouver un travail. En allant dans les agences de recrutement, c'est eux qui trouvaient le travail pour toi. Et c'est un beau réflexe à avoir, ça. Parce que souvent, on a le réflexe de répondre à plein d'offres sur le web ou d'aller même des fois, c'est toujours le cas, en porte-à-porte, ou de chercher vraiment soi-même, mais de se faire aider, parce qu'il y a des agences de recrutement, agences de placement autour de soi. C'est un bon réflexe, je trouve, et on a... Quand on est à l'école, on ne le sait pas trop. Quand on cherche un stage, une alternance, on peut même parfois se faire aider par des boîtes qui sont spécialisées là-dedans.
Et l'agence d'intérim, ce sont des humains qui sont à l'intérieur, ce n'est pas des machines. Donc en fait, quand on a un bon contact avec cette agence d'intérim, elle a pour mission de répondre à son client.
Mm-hmm.
Donc si elle a un bon contact avec un candidat, l'agence d'intérim va avoir confiance en vous et va pouvoir vous placer plus facilement. En toute confiance.
Et toi, tu gagnes confiance en toi aussi.
Mais c'est complètement. Vertueux. Enfin, c'est vertueux, finalement. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il y a eu plusieurs missions d'intérim dans l'école Excelia aujourd'hui. Et puis après, j'ai été embauchée par Excelia.
D'accord. Oh, ça tombe bien parce que Excelia, je crois que j'ai discuté avec eux la semaine prochaine. J'ai un super rendez-vous avec eux. Et c'est dans le cadre d'Excelia qu'on s'est rencontrés, je crois, avec...
Avec Daniel Perron.
Ouais, l'ancien directeur.
Tout à fait. Excelia.
Et c'est grâce à Daniel Perron, pardon, que j'ai rencontré aussi mon directeur technique. De fil en aiguille, comme quoi le réseau, c'est...
Le réseau, c'est hyper important.
Ouais.
Et il ne faut jamais se fâcher avec son réseau.
C'est vrai.
Parce que c'est lui qui vous rattrape.
C'est vrai, c'est plus facile de se disputer que de se réconcilier.
Exactement.
Bah écoute, génial. Et 18 ans, du coup, pas chez Excelia?
Non, j'ai fait 7 ans chez Excelia.
D'accord.
Et j'ai fait 8 ans à peu près dans le monde des écoles d'ingé, des écoles de commerce, mais dans le groupe INSEC.
Ok.
Et là, c'était sur Paris.
Maintenant, c'est Omnes, je crois, groupe
au sud. C'est ça, exactement.
Ça a changé de nom. Ouais.
Tout à fait. Et ça bouge beaucoup, ça bouge très vite.
Mm-hmm. Ils vont s'installer à Rennes, d'ailleurs, je crois.
C'est ça.
En tout cas, il y a un campus, plusieurs marques qui ouvrent.
Il y a beaucoup d'évolution de ce milieu-là, parce qu'en fait, on se rend compte que l'éducation, c'est porteur pour l'avenir. Donc, il y a pas mal de fonds d'investissement qui viennent mettre un petit peu leur nez là-dedans.
Clairement.
Et qui viennent proposer leur soutien dans ce milieu-là.
Et le modèle de l'alternance plaît beaucoup aussi, également, je pense.
Ça aide vraiment. Donc, dans ce milieu-là, j'ai développé les relations entreprises énormément. Et j'ai changé pas mal de structures, donc d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'informatique et l'école de management EBS dans laquelle j'ai terminé mon cursus, ou en tout cas ma carrière de directrice des relations entreprises.
Avant d'être entrepreneur,
ouais. Exactement. Parce que j'ai accompagné les jeunes à rechercher un stage, à rechercher une alternance, à chercher à leur premier job et à construire leur première entreprise dans des différents dispositifs, comme le dispositif Pépite, Je ne sais pas si tu connais, mais...
Ah, c'est avec les entrepreneurs, peut-être, Pépite...
Ouais,
c'est ça, ouais.
Pépite Entreprise.
Tu es étudiant entrepreneur.
Entrepreneur, exactement. Ouais, okay. Et quand j'ai découvert cet écosystème,
ouais,
je m'y suis beaucoup plu et j'ai trouvé que l'innovation était très forte et très prégnante.
Mm-hmm.
Et je me suis formée à l'innovation par le design à l'ENSI, qui est une super formation qui accompagne les jeunes, enfin en tout cas les moins jeunes, parce que c'est la formation continue toujours.
Ouais.
Mais à découvrir comment les designers construisent leurs projets, leurs solutions,
ouais,
en rapport avec l'usage qui est fait de la proposition, plutôt qu'en imposant une dynamique market en premier lieu. Et ils travaillent sur toute la dynamique de services et de produits en rapport avec l'usager. Et ses pratiques, ses habitudes.
Ouais.
Donc, ils étudient beaucoup l'usager, beaucoup d'ethnologie, beaucoup de sociologie.
Ouais.
Et ils apportent des solutions vraiment en adéquation avec les besoins de l'usager.
C'est des choses que tu appliques, j'imagine, avec Enouya aujourd'hui.
Et oui, puisque
fortement.
Le design de ta vie, tu l'appliques en fonction de tes usages et de tes besoins et de ton fort intérieur. Donc, on design la vie des jeunes en les questionnant et en les interrogeant sur ce qu'ils ont vraiment envie d'être en rapport avec leurs talents et leurs forces.
Tu vois, au final, du coup, d'un BTS Bac plus 2, il y a quand même eu deux formations derrière. Ça te fait un beau parcours tout au long de ta vie et c'est pas fini, j'imagine.
Non. Ouais. Après mon MS, j'ai vraiment envie de poursuivre et d'approfondir toute cette dynamique d'accompagnement. Même si j'ai été formée au coaching dans ma carrière, j'ai pas eu que cette formation-là, mais j'ai envie de poursuivre et de me diplômer à ça. Donc, en tant qu'entrepreneur, là aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants et entrepreneur et femme quelque part.
Multicasquette.
Ouais, exactement. Mais j'ai aussi envie de poursuivre ma croissance intérieure et ça, c'est hyper nutritif. Quoi.
Ouais, c'est une quête tout au long de sa vie, comme on le dit en anglais, lifelong learning.
Exactement.
Et je suis allé sur ton site internet, Enouya, et tu parles beaucoup de connaissance de soi. Je voulais que tu fasses un petit focus là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a beaucoup d'outils. On zappe, on passe d'un sujet à un autre. On est parfois accompagné, projeté. Et c'est vrai que se connaître soi-même, c'est quand même très important, peut-être pour les potentiels étudiants qui nous écouteront sur ce podcast. Au-delà de tout de suite passer à l'action, d'envoyer des CV, alors c'est bien parce que par l'erreur on progresse parfois, mais déjà de bien se connaître, c'est quand même une compétence hyper importante, et je crois que c'est même une des plus belles qualités qu'on peut voir chez une personne quand la personne arrive en face de toi et qui a confiance en elle. Je sais qu'aujourd'hui je faisais passer un entretien d'embauche, une personne qui va nous rejoindre, et j'ai vu son évolution sur les 3 rendez-vous et sur le dernier rendez-vous il a été au top, et j'ai senti toute cette confiance en lui parce qu'on l'a aussi un peu accompagné dans le process, et c'est ça qui a réussi à ce qui lui a permis de convaincre mes deux associés. Et c'est vrai que j'essaie de parfois quand j'interviens dans les écoles de le mettre aussi en avant, au-delà d'utiliser des outils, de gérer son CV, d'avoir le réflexe de foncer peut-être vraiment droit devant, de bien se connaître soi-même. Il doit y avoir des techniques, des outils. Moi je suis pas un expert sur ce sujet-là. Peut-être que tu peux nous faire une petite parenthèse sur la connaissance de soi.
Il y a un lien entre ce que je faisais avant en tant que directrice des relations entreprises et un lien avec ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que quand je faisais du soutien aux élèves, je les marketais. Quand on fait du marketing, il faut bien connaître son produit, il faut bien connaître son service. Et quand on se vend soi-même, quand on fait du marketing de soi, parce que c'est ce qui se passe, c'est bien se connaître soi-même. Mais quels sont les points forts que j'ai, quelles sont les forces que j'ai. Et ces forces, elles vont être de l'ordre des compétences psychosociales. C'est-à-dire, est-ce que j'ai capacité à travailler en équipe? Est-ce que j'ai capacité à trouver des fonctionnements d'agilité? Est-ce que je suis dans la possibilité de travailler longtemps, pas travailler longtemps, travailler en solo de temps en temps? Est-ce que j'ai la volonté, je ne sais pas...
La résistance au stress ou des choses comme ça?
Exactement, tout à fait.
Ça, on appelle les soft skills
complètement.
Concrètement.
Et ça, y a une structure qui peut... Enfin, il y a plusieurs formes de structures qui peuvent permettre aux jeunes de comprendre qui ils sont. Donc on va
aller chercher... jeunes.
Ou les moins jeunes. mais complètement, parce qu'aujourd'hui, quand tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu fais la crise de la quarantaine, on dit ça. Mais en fait, c'est à quoi je sers sur cette planète, quoi.
Ouais.
Et ça part du fait que si je me connais, j'ai capacité à dire « Ok, je peux servir à ça, moi.
Mm-hmm. »
Moi, j'ai des capacités de relationnel, et d'autres ont des capacités d'analyse et de structuration.
Mm-hmm.
Va pas me demander de faire un exercice de maths, je suis incapable parce que la structuration va m'être fatigante, en fait. Alors que pour mettre en relation les gens, penser à quelqu'un en étoile pour aller dire bah, « Tiens, tu peux servir à ça pour lui, mettez-vous en relation, je vous mets en contact mm-hmm. », ça, je suis capable. Mm-hmm. Et ben, c'est ça qu'on demande aux jeunes aujourd'hui. Connaître ses forces, ses talents, quels sont les besoins qu'ils ont au quotidien, comment ils fonctionnent au quotidien. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de manger 5 fois par jour. Je mange 3 repas complets, mais j'ai besoin d'avoir 2 temps de goûter parce que sinon, je ne suis plus en capacité de réfléchir. Mm-hmm. J'ai besoin de dormir. De faire au moins 8 heures de sommeil et j'ai besoin d'un temps de 10 minutes juste après mon repas. Mmh. Tu vois et ça, tu, rien que ça, tu le sais. Tu es capable d'être efficient avec ça. Mais les jeunes, pardon, j'allais dire les gamins, mais les jeunes...
tu parles pour tes enfants peut-être ?
Ouais, peut-être. Ils n'ont pas cette capacité-là aujourd'hui et c'est besoin d'être éveillé à ça, d'être ouais. conscientisé qu'il y a des besoins physiologiques nécessaires. Mmh. Et ensuite... t'as des besoins d'être respecté, t'as besoin d'être dans une dynamique de respect mutuel pour toi-même et avec les autres. Mmh. Et là, on utilise bah, toutes les émotions qui nous traversent au quotidien. Hein. J'ai plaisir aujourd'hui à être avec toi et à discuter avec toi de ces choses-là. Si je suis dans une émotion désagréable, alors à ce moment-là, bah, je vais être en alerte. Mmh. Je vais leur dire, voilà, ça c'est un messager. Si t'es en colère, si t'es triste, mmh. si t'as peur, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Pose-toi la question de qu'est-ce qui va pas.
Tu pratiques la... Pardon, je ne veux pas te couper. La méditation, un petit peu ?
Je pratique la méditation de façon quotidienne.
C'est vrai ?
Pour pouvoir vraiment me concentrer sur ma respiration ouais. et les différents stimuli qui me traversent le corps. Donc, en fait, c'est vraiment... Et je n'ai pas fait de méditation et de cours de méditation, mais juste, je me dis, OK, je suis là, je suis consciente, je suis présente, ouais. je suis vraiment là.
Pleine conscience.
En pleine conscience.
Ouais, c'est important, ça, parce qu'on est tellement des fois dans le... Dans le speed, dans ah ouais. le jus, comme on dit, avec plein d'infos, plein de choses
ça
à faire.
Bien fou.
Et de se poser. Des fois, c'est presque anxiogène ouais. quand on n'a plus l'habitude de le faire.
Je pratique pas mal les étirements aussi le matin pour réveiller ton corps, pour avoir pleine conscience ouais. des petites douleurs, des petits bobos. Tu vois, quand on te dit j'en ai plein le dos, ouais. et ben, quand j'ai une petite douleur au dos, c'est hop, un petit message
c'est un
qui
petit
dit
signal, ouais.
là, il va peut-être falloir que tu prennes soin de toi.
Ouais. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail, moi, c'est les acouphènes, tu vois.
voilà.
Quand ça siffle dans ma tête, c'est que je suis soit énervé, soit j'ai bu trop de café, ou soit j'ai pris une pinte en trop au bar avec les copains.
Mais ça veut dire qu'il y a un message. Et ces ouais. émotions, elles sont importantes. Après, tu as des valeurs, tu portes des valeurs.
Ouais.
Et les gamins, les jeunes, encore une fois, ils ont besoin de connaître leurs valeurs. Si je suis plutôt dans le pouvoir, dans la tradition, dans la conformité, c'est pas pareil que si je suis dans la bienveillance, dans la dynamique universaliste ou dans l'hédonisme.
Ouais.
Et donc ça, c'est important qu'ils aient des grilles de lecture, qu'ils aient des clés de compréhension d'eux-mêmes et pour pouvoir comprendre l'autre. L'idée, c'est d'aller comprendre l'autre, d'être plus empathique.
Bien
aussi,
sûr.
Parce que l'empathie, c'est pas de la sympathie ou de la compassion.
Non, c'est se mettre à la place de la personne, peut-être.
Avec
la
En
personne.
Fait, c'est de mettre à côté, de te mettre vraiment dans les faits
ouais.
et être avec lui, mais pas pour lui, pas mm-hmm. à sa place. Mm-hmm. Tu ne vis pas à sa place, mm-hmm. mais tu vis avec lui. Et tu comprends mieux comment il fonctionne.
Mm-hmm.
Tout ce que fait le designer, en fait.
Mm-hmm.
Il essaie de comprendre comment fonctionne l'usager pour pouvoir répondre à son besoin.
Bien sûr.
J'ai un designer avec qui j'ai échangé pas mal dans mes études. Qui me dit j'ai un dispositif pour les diabétiques à mettre en place pour un client et il me dit je me pique tous les matins le doigt pour comprendre ce que ça fait
ouais.
et avoir vraiment cette empathie
ouais.
pas pour le vivre dans le sentiment mais pour voir comment c'est compliqué de trouver un temps pour faire mmh. ça rien que ça tu vois
mmh,
quand t'entends ta matinée tu sais ouais. quand est-ce que tu fais ça enfin ouais. ou de ressentir
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est vraiment de l'empathie. C'est vraiment de dire, je ressens à la place d'eux.
Et derrière, on découle peut-être plus facilement de la pédagogie.
Et derrière, oui, tu arrives à apporter beaucoup plus de compréhension. Quand tu as ouais. une maîtresse d'école qui accueille un enfant de 3 ans et qui ne se baisse pas à son niveau,
mmh,
et qui lui dit, pour lui parler, et qui lui dit, bonjour, rentre dans la classe, et que le gamin, il est juste effrayé d'arriver dans un espace.
Ça crée un rapport de force et
mais
inutile.
Complètement. Ouais. Et il ne veut pas y aller. Il n'a pas envie. Tu ne mets pas à sa hauteur. C'est vraiment se mettre à la hauteur des gens
ouais.
dans toutes les dimensions.
Super intéressant. Et du coup, la place d'Enoya dans tout ça, c'est ce que tu animes des ateliers. Tu peux nous comment est-ce que tu appliques ça du coup au quotidien et par rapport à la proposition de valeur d'Enoya, j'imagine que ça résonne.
Alors aujourd'hui, on a des outils.
Ouais.
Qu'on a co-construit avec des experts en développement personnel qui ont différentes expertises comme la DVP qui est une pratique canadienne qui va chercher le fort intérieur des élèves comme la CNV, la communication non violente
mm-hmm.
où on va aller vraiment travailler la dynamique de respect de soi par l'expression du besoin et la demande claire qu'on veut faire à l'autre, parce qu'il y a eu une distorsion dans le besoin ou il y a eu un froissement. On va aller travailler aussi des outils que moi j'adore, qui émanent du design, qui sont la formalisation. Formaliser qui je suis par une œuvre autocréative, enfin une œuvre créative, mm-hmm. autobiographique.
C'est-à-dire concrètement, tu prends des objets, de la pâte à modeler,
voilà,
des choses comme ça.
Et tu te construis, et tu dis voilà, moi je suis ça, j'ai cette force-là, j'ai ce talent-là, j'ai ce besoin-là, et je la construis avec des boîtes en carton, des boîtes d'œufs, des bouteilles en plastique. Et les jeunes viennent formaliser. Et c'est un temps en fait non seulement de formalisation, mais ensuite d'ancrage dans le cerveau de ce que je suis vraiment et d'acceptation de ce que je suis vraiment. Donc on le fait juste après deux séances sur les forces et les talents.
D'accord.
Où on va aller travailler l'action dont je suis fière. Pour un jeune, dire qu'il est fier de quelque chose aujourd'hui, c'est hyper dur dans plein de milieux.
Pourtant, il faut être fier de ce qu'on fait, même à petite échelle, c'est
mais
important.
Bien sûr.
Je pense.
Mais quand
même
on parle
si on n'a pas forcément des résultats extraordinaires.
Exactement.
Parce que c'est une boucle vertueuse derrière. Ça te pousse à continuer les efforts et d'être constant. Et...
Exactement.
Moi, je suis fier du podcast que j'ai lancé, mais ça fait 3 mois que je n'ai pas sorti encore
l'épisode.
Mais grâce à toi, je suis fier aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est d'être fier de ce qu'on est et pas de se comparer aux autres.
Effectivement.
Et en fait, la fierté, c'est se comparer à soi, mais quand on était plus petit.
Exactement.
Et quand on était plus jeune. Et là, l'idée, c'est de dire aux jeunes, ben voilà, t'as peut-être pas forcément gravi la montagne que tu voulais gravir, encore aujourd'hui, mais par contre, tu as fait un sacré chemin. Et c'est ça qu'il faut que tu analyses. Quel est le chemin que tu as parcouru et qui a été le plus fort pour toi à un moment donné? Qu'est-ce qui a été intéressant pour toi? Et là, après, on décrit, et les autres, en intelligence collective, vont lui renvoyer les forces qu'ils perçoivent. Et là, il y a un travail collectif qui est fait dans nos exercices, c'est que les jeunes s'autorisent à être soi dans le collectif. Et les autres acceptent mieux qui sont quelle est la différence, quelles sont les différences des autres.
C'est super ça, parce que depuis tout à l'heure, tu vois, tu me parles de ces ateliers ou de tout ce que tu viens de m'expliquer, sans parler des difficultés, des faiblesses ou des vulnérabilités, parce que tu sais, on a toujours ses forces et ses faiblesses, et là, depuis tout à l'heure, tu mets en avant justement tous ces points forts. Et comment du coup t'adresses, je sais pas, quand tu fais un atelier, est-ce que tu vas sur ces sujets de difficultés, de vulnérabilités? Tu vas que sur le positif, du coup?
Exactement.
Pourquoi?
À fond. Parce que on est excellent dans son positif.
Ouais.
On n'ira jamais demander à une girafe de monter à un arbre.
Hein? C'est pas mal ça.
Et donc en fait, on est bon sur son, on va vraiment pousser le positif à fond, parce que on a aujourd'hui suffisamment de personnes pour nous dire ce qui est pas bien fait.
Ouais. Et puis on peut éventuellement déléguer. Je prends rapidement le travail d'équipe. Moi, je me projette. J'assimile ça à ce que je fais de manière un peu égocentrée, même si ce n'est pas le but de ce podcast. Mais effectivement, plutôt que dire à quelqu'un de ton équipe « travaille là-dessus », si tu sais que c'est sa vulnérabilité ou son point faible, peut-être mieux vaut le laisser à quelqu'un d'autre.
Exactement.
Ce n'est pas évident de détecter ça, ça demande de créer un vrai dialogue.
Oui, et c'est ça qu'on on autorise à faire aux jeunes aussi, parce que ce qui se fait de façon très globale, là je te parle de quelque chose de particulièrement générique, mais... Quand tu es dans le jour J, à l'heure H, avec le jeune, en face à face, et que tu lui dis « Mais t'as le droit, en fait. T'as le droit d'être comme ça. Et t'as le droit d'être bon dans ça. Et cet avion, il est superbe. Et ce que t'as fait là, c'est génial. » Et on a vu des jeunes avec des lumières dans les yeux qui nous disent « Mais en fait, c'est top. En fait, vous m'autorisez. »
Ouais, t'as le pouvoir.
Ah, exactement. J'ai le pouvoir sur moi. Et les autres sont tous différents.
Clairement.
Le collier de perles, on est différents les uns des autres. Donc, soyons plutôt complémentaires que compétitifs, que dans la concurrence. Aujourd'hui, on me dit, Enoya, il faut que tu protèges absolument tes outils. Il faut que tu protèges absolument tout ce que tu fais.
Avec des brevets, avec des brevets, propriété intellectuelle,
exactement.
Plein de sujets.
J'ai dit, mais non, je veux que ça soit diffusé et je veux que ce soit augmenté par
tout
le monde.
C'est le principe de l'open source, au final, tu vois, et c'est quelque chose qui
plaît beaucoup.
Et on est une
société collective.
Avant que quelqu'un se retrouve chez lui, essaie de te copier, dupliquer, ce qui t'enlèvera jamais, c'est ce que t'as dans la tête, c'est ton parcours, c'est qui tu es, et puis au final...
Qu'il y aille, parce que c'est ça qui va être bon pour la société, ça va être le... Moi, je ne vis pas pour mon projet personnel. Pour être honnête avec toi, Paul, dans 60... Allez, j'exagère. 60 ans peut-être. Dans peut-être 60 ans, je ne serai plus là.
Ouais.
Tu vois, 60 ans, à l'échelle de l'humanité, c'est rien.
Ouais.
Donc ce que je veux, c'est que ça perdure, c'est que ça reste, c'est que les autres ils puissent s'en profiter.
Bien sûr.
Qu'on puisse.
Mais je pense que c'est ça la flamme qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir de l'impact.
Exact.
Parce qu'au final, si on a des concurrents ou si on a des personnes qui nous s'inspirent, qui nous peut-être plutôt bon signe d'ailleurs, et puis ouais. Ça évangélise d'une certaine manière. Exactement. Moi, je le vois de cette manière.
On n'a jamais eu autant d'entrepreneurs en France. Parce qu'on a tous une idée et qu'on a envie de la développer et que c'est de plus en plus facile et qu'il faut le faire et qu'il faut qu'on fasse équipe.
Carrément.
Carrément. Toi et moi, on va faire équipe sur plein de projets.
On va faire équipe, je suis persuadé. Je crois beaucoup au partenariat.
Ouais,
je crois beaucoup au partenariat et parfois, je pense qu'il faut être aussi patient. C'est pas évident de réussir à s'associer, à faire des fois des offres packagées ou bien collaborer, mais en étant patient, on réussit toujours à ne pas se rejoindre. Et si on arrive à se rassembler autour d'une cause commune qui est, par exemple, l'insertion pro, la connaissance de soi, la gestion de carrière, tous ces sujets connexes,
on
trouvera notre place. Parce qu'il faut être acteur de ce qu'on fait. Et on peut être acteur en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que salarié, entrepreneur, peu importe. Et effectivement, je pense qu'il y a un beau combat à mener. Et
je rêve d'une chose. Tu veux que je te dise de quoi je rêve ? Je rêve d'une école supérieure de la collaboration et de l'intelligence collective. J'aimerais trop qu'on arrête de construire
ces concours d'école de classement. Là,
c'est ça. J'aimerais trop qu'on arrête ça parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on reste dans cette réflexion de c'est moi la plus forte, c'est moi la meilleure, j'ai le plus d'étudiants.
D'accréditation.
Exactement. Ouais. Or, on pourrait faire l'école supérieure de la collaboration et de l'intelligence collective et on ferait un truc extraordinaire que personne n'a jamais fait.
Mais ça serait quoi les passerelles alors pour toi ?
Bah, ce serait on construit ensemble un monde meilleur, on est dans une dynamique de partage des compétences, de partage des ressources.
Bien sûr. On le fait déjà, tu sais, un peu avec des associations comme EdTech France.
Ouais.
Moi, je fais partie de EdTech Grand Ouest, j'essaie d'être impliqué. On le fait à notre échelle, comme on peut, avec des événements, avec des EdTech Tours, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'école, de l'enseignement supérieur pur, il y a peut-être quelque chose à...
Et on continue à construire des esprits compétitifs, pas collaboratifs, dans la concurrence.
Ouais. Il y a des enjeux aussi autour de tout ça. Il y a des paramètres.
Mais c'est plus fort. Ouais. C'est plus fort que mon rêve, quoi, je pense, pour l'instant.
Et pourquoi t'as appelé ça Enoia alors ?
Alors, Enoia en grec ça veut dire sens. Et la quête de sens pour moi a vraiment un impact dans mon esprit. Et le sens a trois significations. C'est les sens humains, vraiment l'ouïe, l'odorat, s'écouter. En fait, l'émotion elle vient par les sens au départ, les cinq sens de l'humain. Et puis après, t'as le sens, la signification. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ma vie signifie ? Qu'est-ce que j'ai comme sens dans l'univers ? C'est un peu plus grand que ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est vraiment important, c'est essentiel. Et puis enfin, le sens, c'est l'orientation. C'est dans quel sens je vais. Et donc, c'est aussi une capacité la capacité de se connaître et quelle est l'orientation que je vais avoir par la suite dans ma vie et dans mon orientation professionnelle finalement.
Du coup, je suis curieux de savoir combien de temps ça t'a pris pour trouver ce nom. C'est une question qui je pense que tu t'y attendais pas, mais c'est vrai que quand on cherche à lancer un projet, des fois, on reste même bloqué à la recherche du nom. Et dès qu'on trouve le nom de ce projet, il y a comme une joie qui se crée. Comment ça s'est passé ? Je sais pas si tu perçois ce que je veux dire. Mais...
C'était autour d'un café. On a sorti énormément de noms, de mots, tous plus... farfelus les uns que les autres.
Ouais, brainstorming, quoi.
Exactement. Et avec mon associé, on essayait d'aller chercher quand même une signification, un vrai... J'ai sorti des trucs très, très biologiques, très orientés univers. Et puis finalement, le grec est arrivé, est apparu, et on a cherché dans les mots grecs, dans les mots latins.
Ouais.
Et Enoia, en éducation, ça n'existait pas. Donc voilà, on est resté sur Enoia Éducation. Et ça passe bien.
Ça sonne bien.
Son, ça passe bien.
Tu as réussi à acheter le nom de domaine enoia.com, .fr. Plus. Le .com, tu as réussi à avoir
Enoia-educ.com.
Parce que 5 lettres, c'est... Il y a combien de lettres dans Enoia ?
Je sais pas. Il y a 6.
6 lettres, Plus c'est court, plus c'est dur, plus c'est cher sur le web.
Exactement.
Mais ce qui compte, c'est d'avoir au moins une petite vitrine, quoi.
Exactement. Bah oui.
Site, il est plutôt bien fait, d'ailleurs. Vous l'avez fait vous-même ou vous avez
On
passé...
l'a fait nous-mêmes,
Okay, super.
On l'a fait nous-mêmes. On l'a construit de façon à avoir une identité visuelle forte.
Ouais.
un impact en termes de communication. Et puis après, on a fait appel à des experts en développement informatique.
D'accord.
Des jeunes bien câblés qui viennent de l'ECE et qui ont bien fait les choses, quoi.
Génial. Et t'en es où, du coup, de la boîte?
Alors,
sur ton parcours d'entrepreneur.
Aujourd'hui, on a un projet phare qui est celui de l'accompagnement des jeunes à la connaissance de soi, mais surtout à la prise en main des modules par les profs et les éducateurs dans les systèmes, les écosystèmes éducatifs. Et en fait, un cas d'exemple, dans un établissement scolaire, on a accompagné l'année dernière une classe de 20 élèves un groupe d'enseignants éducateurs, parce qu'ils y tiennent à former l'ensemble du personnel éducatif. Mmh. Et ils ont pris nos outils en main. Et aujourd'hui, lundi, on démarre l'accompagnement de 308 élèves de seconde.
D'accord.
À la connaissance de soi et à la compréhension des autres.
Concrètement, ça va se passer comment? Parce qu'il n'y a pas 308 personnes dans une salle, j'imagine.
Non, ils sont par groupe de 10.
D'accord.
Et en forme sur 3 semaines balisées dans l'année, avec 2 séances par semaine et une dernière journée de célébration le vendredi 7 avril. Donc tu vois, on commence le 17 octobre, on termine le 7 avril et les jeunes vont cheminer pendant les intercessions. Et les 12 profs et éducateurs prennent environ 10 à 12 élèves par promo, par groupe.
Toi, tu vas chercher des intervenants, du coup, j'imagine, pour...
je fais rien. Non. C'est-à-dire que c'est les profs qui ont été formés l'année dernière.
Ah, génial. D'accord.
Qui vont prendre en main...
J'avais pas compris.
Je fais de la supervision,
contre.
Okay. Et j'accompagne les profs et les éducateurs à appréhender encore mieux les outils qu'ils ont vus l'année dernière pour les distribuer et les développer, les animer auprès des élèves de seconde de leurs différents lycées. Il y a le lycée général, le lycée professionnel et le lycée technologique.
D'accord.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les groupes, il y a des profils des 3 lycées. Donc les jeunes vont venir se connecter les uns aux autres.
C'est hyper hétérogène.
Ouais, et c'est ça qui est top aussi, c'est que c'est un projet hyper challengeant pour les profs, mais aussi pour les élèves de se connaître en interlycée. Souvent, il y a des distensions.
Ouais. Ou à moins qu'on fasse des événements sportifs. Moi, je me souviens
j'étais
au lycée, c'était
oui,
bien
exactement,
ça.
Exactement, hein. C'est top ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Ça existe toujours, j'imagine, au lycée.
Oui, quand même. Dans l'établissement où on va à La Rochelle, là, qui est un établissement privé, il faut encore énormément de projets. Énormément de projets interlycées.
Et c'est quoi, du coup, les. Je ne sais pas si on peut parler de livrables, mais concrètement. Mis à part que l'étudiant va progresser, j'imagine, passer un bon moment, développer peut-être des compétences, accéder à des outils, suivre c'est quoi, c'est des ateliers, j'imagine, s'il y a 10 personnes, c'est un format d'atelier, c'est
plus facile. On fait des ateliers par intelligence collective.
Il repart avec quoi, le jeune?
Avec un book le dessin de sa singularité.
Ok.
Et la capacité à aller se présenter de façon différente que via des expériences sur un CV.
Ouais.
C'est, j'ai des forces. Voilà, c'est celle que je peux énumérer aujourd'hui parce que je les ai vraiment identifiées avec mes collègues, avec mes copains. Ensuite, j'ai des besoins. Je peux dire vraiment ce sur quoi je suis intraitable et j'ai besoin qu'on respecte ces besoins-là. J'ai des valeurs, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des engagements sociétaux et j'ai une cause que j'aimerais défendre. Ce qui fait que je vais me lever le matin et que je vais aller bien tous les jours parce que j'aurai une cause à défendre plus large que moi.
Et le jour où je cherche du travail face à un recruteur, j'ai une belle histoire à raconter.
Je fais la différence.
C'est clair.
Je fais vraiment la différence.
Et puis j'amène des compétences. En tout cas, je suis dans une démarche peut-être d'offrir quelque chose au-delà de parler de moi et d'être un petit peu déboussolé, comme je le vois très souvent, malheureusement.
Ouais, complètement. Ça fait des jeunes construits, en fait. Ça fait des jeunes qui ont vraiment une capacité à se penser et à se projeter. Mmh. Et ce ne sont pas seulement des éléments à un instant T. Ce sont des éléments pour toute la vie, c'est-à-dire qu'on donne une structure, on donne un squelette de réflexion qui fait que le jeune, et c'est ce que m'a dit un jeune un jour, il m'a dit « Mais madame, moi j'avais confiance en moi, mais par contre, ce que vous m'avez vachement apporté, c'est la structuration de ma pensée. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand je vais avoir 25 ans, quand je vais avoir 30 ans, j'aurai besoin de me repenser et je reviendrai sur vos outils parce que c'est ça qui va me permettre de réfléchir à qui vraiment je suis. »
C'est bien d'avoir un livrable, un petit book comme ça en physique.
Ouais.
Au-delà d'avoir encore un énième truc virtuel, ce qui me dit mon truc.
Alors,
il doit y avoir les deux, j'imagine.
Oui, mais j'y tiens vraiment à ce 100% connecté à l'humain parce qu'on se fait grandir les uns les autres et tu es quelqu'un parce que tu as rencontré des personnes.
Ouais.
Et c'est ce qui fait que le numérique aujourd'hui nous éloigne un petit peu de nos compétences psychosociales.
Ouais.
C'est qu'on est souvent seul derrière son ordi.
Ouais, on tombe dans le piège.
Et même si l'ordi peut nous apporter des connaissances, peut nous apporter un accompagnement, jamais personne ne pourra te dire « Paul, tu es un mec super et tu es super fort sur ça, j'ai besoin de toi
pour
ça. »
Oui, puis si c'est un robot qui me le dit ou un avatar, je ne vais pas forcément prendre
ça
beaucoup
de plaisir.
Ça manque
de crédit, un peu.
Exactement. Et tu vois, ça, je l'ai remarqué. Par exemple, quand je fais ça m'arrive de faire des petits webinars en visio, mais quand je fais des interventions en physique dans certaines écoles qui me proposent de venir, j'ai imprimé un document papier. C'est comme une copie avec une note sur 20 avec 10 bonnes pratiques pour prendre en main sa recherche de stage et d'alternance. Et on a une note sur 20. L'idée, c'est que les jeunes repartent avec 20 sur 20. Et en fait, c'est 10 bonnes pratiques aussi pour utiliser notre solution. Et moi, je crois beaucoup au fait d'allier effectivement la technologie et l'humain, ce qui est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, concrètement, tout le monde le sait, on fait du SaaS, nous, chez Grimp, on fait du logiciel, est très, très orienté produit. Mais l'alchimie entre arriver avec une proposition de valeur technologique, des bons conseils et un petit objet, parce qu'on a sa petite copie avec les 10 bonnes pratiques, je fais une candidature spontanée. Parfois, on me dit, mais c'est quoi une candidature spontanée, monsieur? Enfin, on me dit des fois, même monsieur, ça me fait bizarre à 30 ans. Et je leur file un petit crayon. Et un peu, c'est un peu ma revanche aussi, parce que j'étais un peu turbulent à l'école, et j'arrive avec une copie, tout le monde repart avec 20 sur 20. Et je trouve que ça fait il y a un petit effet sympa. J'ai toujours été emballé par la technologie, le numérique, les outils, le digital, et finalement de retourner là-dessus ou de réussir à lier les deux et prendre un peu de recul, je trouve que c'est hyper, hyper puissant et ça crée des belles histoires. Et je trouve ça hyper complémentaire de pouvoir avoir des personnes comme toi qui gravitent autour de solutions technologiques. Et je pense que c'est ça l'avenir du logiciel. Et je me radote un peu, comme on dit, mais je pense que c'est hyper important que lorsqu'on déploie une nouvelle solution, un outil technologique ou pas, qu'on ait de l'humain à côté. C'est comme un peu dans les entreprises, on a toujours eu un responsable informatique pour nous aider. Quand le Covid est arrivé, que tout le monde devait aller sur Teams, j'en ai vu des gens en difficulté, dans ma propre famille d'ailleurs.
Moi, j'ai souvent tendance à dire, quand tu as le choix entre deux solutions et que tu ne sais pas choisir, prends les deux et fais-en un match, le match d'une troisième. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis 100% connectée à l'humain parce qu'on fait du coaching. Et le coaching, c'est de l'accompagnement à la prise de conscience, à la réponse à des solutions, à des solutions qui t'appartiennent par du questionnement socratique. Et ça, c'est des éléments que personne ne peut utiliser et aller chercher par le questionnement via un ordinateur.
Bien sûr.
Parce que c'est intrinsèque, parce que c'est à l'intérieur de toi. Et donc, il faut de l'humain à l'humain, de la chaleur humaine, c'est vital.
Bien sûr.
C'est vital.
À l'époque, on vivait en tribu. Hein.
Oui.
On était heureux comme ça.
Mais on est des êtres sociaux.
Ouais,
on n'est pas. Voilà. Et puis, il faut qu'on ait de l'expérience, il faut qu'on ait du rattachement, il faut qu'on ait tu as des expériences qui me rappellent moi, et j'ai des expériences qui te rappellent
bien
toi.
Sûr.
Un ordinateur, il n'aura pas ça.
Non. Bon, il a un bon disque dur.
Ouais, mais il n'aura pas la vie qu'on aura eue, quoi.
Et comment on passe ça à l'échelle, du coup? Parce que quand on donne des... Moi, c'est un peu le... Moi, j'aime beaucoup, je réfléchis beaucoup à ça. Là. On appelle ça en anglais la scalabilité, quoi. C'est passer le projet à l'échelle, décupler un peu l'impact. Quand tu fais du coaching, quand tu fais des ateliers, comment est-ce que tu peux passer ça à l'échelle? La technologie le permet bien souvent.
Ouais.
Après, il faut trouver la bonne verticale. Et toi,
je te challenge un peu. La technologie va nous aider.
Ouais, la technologie va t'aider là-dessus.
J'y ai déjà pensé parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des coachs. Et les coachs, il y en a beaucoup en France.
Bien sûr.
D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à faire matcher le coach avec l'établissement scolaire.
Ouais.
Parce qu'on ne va pas sortir de l'établissement scolaire. On va rester dans la dimension scolaire. On a beaucoup de travail à faire en partenariat avec ce qui existe déjà.
Bien sûr.
Et pas créer une nouvelle forme de scolarité. Mais du coup, aller chercher des coachs, leur permettre de comprendre notre solution, de la vivre, de l'attribuer et de la proposer dans des établissements scolaires.
Ouais.
J'ai des échanges avec une personne de Saint-Étienne aujourd'hui, à Marseille, à Nantes, à Reims, à Paris. Et ces personnes-là vont aller chercher dans leur réseau, dans leur propre réseau, les endroits où elles peuvent aller proposer la solution de coaching.
Super.
Et l'outil numérique va venir nous aider à venir cartographier les endroits où c'est possible et à faire matcher les besoins avec la solution.
Et une question brutale et directe qu'on n'aime pas trop poser en France.
Vas-y.
Comment tu te rémunères du coup c'est quoi ton modèle économique?
Ah ben aujourd'hui, c'est du propre, hein, c'est du fonds propre. Ouais. Et on va aller chercher. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question. Parce que...
Et quand tu travailles avec les écoles, j'imagine qu'il y a un abonnement ou on paye à la prestation ou quelque chose
comme ça. On paye à la prestation, ouais. Et derrière, on va aller chercher une communauté de coachs et de communautés de piliers qui D'accord. vont être formés. Parce que les profs et les éducateurs qui vont être formés à la proposition Inoya vont devenir piliers. Et mm-hmm. pour rester piliers et intégrés à la communauté, il y aura un forfait okay. Pour l'établissement. Pour financer cette adhésion.
Ce qui fait sens parce que c'est gagnant-gagnant. J'aime bien poser ces questions, c'est un peu aussi des fois mon combat ouais. du quotidien, de pouvoir parler d'argent un peu ouais. librement ouais. et ouais. également dans l'éducation parce que c'est un outil, c'est un
Non,
c'est pas rentable. Ouais. Il y a encore du travail, bien
ouais,
sûr.
Complètement.
Mais il y a quand même un beau partage de valeur et quand il y a de la valeur, normalement il y a un peu de richesse au sens positif du terme. Et je pense qu'il y a aussi ce combat de pouvoir parler librement de modèles économiques, de comment est-ce qu'on finance des innovations pédagogiques, parfois externes, ouais. des établissements. Et parce que quand on fait des choses en interne, quand on fait même parfois des... Alors je vais peut-être sur mes sujets à moi, mais quand on fait des plateformes soi-même et qu'on ne peut pas gérer après la maintenance et que 5 ans plus tard, c'est obsolète, quelle est l'expérience utilisateur, quelle est l'expérience apprenante et je pense qu'il faut essayer de... pouvoir aborder ces sujets sans... Voilà, j'en ai pas profité, tu vois, je fais une petite parenthèse là-dessus. Bah, mais...
C'est marrant parce que, ouais. tu vois, on se pose la question de comment on va faire financer ce type de projet, parce que ouais. c'est vraiment des projets de profondeur qui sont pas palpables, qui ont aujourd'hui pas d'évaluation profonde sur du long terme, parce que l'humain change de façon avec parcimonie, pas dit que Inoya soit exclusivement la réponse... dédié. Et donc, on va aller chercher des acteurs complémentaires, des acteurs qui font exactement cette même réflexion de quête de sens, ouais. d'écologie intégrale. Et,
ça pourrait être de la certification, du coup, peut-être un petit diplôme à la fin du parcours Inoya ou d'un...
Ah, il y a un certificat. Il y a un certificat okay. D'avoir la capacité à se connaître soi-même et à comprendre un peu mieux les autres. Ça, c'est un certificat qui est proposé par Inoya.
Je pense à ça parce que tu vois les MOOC, les cours en ligne gratuits, oui. certifiants, ouais. tu as une version du coup gratuite et ouais. si tu payes, c'est juste le certificat. Et quand tu payes, tu t'engages et tu vas au bout du cours. Ça crée de l'engagement, c'est super. Effectivement, peut-être qu'il y a...
Il y a ça, mais il y a au-delà de moi perso, j'ai envie d'aller embarquer d'autres acteurs D'accord. et d'aller chercher des fonds
ouais.
pour mobiliser plusieurs acteurs sur la dynamique collective dans le système éducatif pour la quête de sens.
Ouais.
Et il n'y a pas que moi en fait, il n'y a pas que Inoya qui
existe. Non, j'en connais
y en a
d'autres.
Plein d'autres.
Moi, par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu connais Yapuka comme acteur en France.
Ouais.
Ouais, on essaie de trouver des synergies.
Il y a Tadam, il y a Sev, il y a plein d'acteurs qui ont aujourd'hui une vraie dynamique et une vraie volonté d'aller chercher la quête de sens aux plus jeunes, pour les plus jeunes. Et c'est ça qui est important, c'est que particulièrement conscients, nos jeunes auront une vie différente. Mmh. Auront pas une vie de l'avoir, mais une vie de l'être. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas je vais avoir plus que les autres, mais je vais avoir
Non, c'est ce côté
plus.
Où je suis en pleine confiance et conscience,
Mais c'est un super lapsus.
Je n'ai pas fait exprès. Et que finalement, c'est moi qui prends les rames de ma barque et choisis où je vais,
et
plutôt que d'être pris par un peu le courant comme
Exactement.
Ça et rien contrôler.
Et je décide pour moi ce qui est bon pour moi. Et je ne le fais pas à 40 ans ou à 50 ans.
Ouais.
Je le fais dès le début et je choisis ma voie et je ne suis pas forcément dans des dynamiques de pouvoir sur l'autre. Mais parce que comme j'ai confiance en moi, j'ai le pouvoir de moi-même et ça suffit.
Et c'est ça la réelle abondance, non ?
Ouais,
on parle de fin de l'abondance,
mais
c'est gratuit.
Ça, tu sais qu'il y a des philosophes qui se posent la question de savoir comment on va faire pour être en plénitude sans l'avoir, sans la plus grosse bagnole, sans le plus gros château, sans la plus grosse baraque, sans la plus grosse piscine. Et en fait, ils se disent, mais si on n'a pas l'avoir, est-ce qu'on peut avoir l'être ? Et ben, je pense que c'est ça la vraie solution.
Ouais.
C'est d'aller chercher l'être, d'aller chercher la pleine conscience de ce qu'on est et le bonheur à juste être pleinement conscient de qui on est.
Ouais, c'est hyper, hyper important. C'est passé super vite, Caroline.
Déjà ?
Ouais. Non, c'est pas encore la fin. Je t'ai mis un petit verre d'eau d'ailleurs, si tu veux prendre une petite... Si tu veux te
Vas-y,
désaltérer.
Oui, ça va bien.
Et moi, j'ai une dernière question à te poser, du coup, que je pose à chaque invité maintenant. Donc tu es, je crois, la quatrième personne. Donc, le podcast s'appelle « Le futur, c'est maintenant ». Alors, pourquoi « Le futur, c'est maintenant » pour toi ?
Le futur, c'est maintenant, parce que je pense qu'en 10 ans, on peut transformer l'état d'esprit des gens.
Ouais.
Même, c'est déjà même engagé parce que au vu des différentes crises qu'on a rencontrées, traversées et celles qu'on va encore traverser parce que c'est pas terminé, on a besoin très rapidement de se repenser. Et c'est maintenant qu'on doit le réfléchir, c'est maintenant qu'on doit dire comment on va faire. Mmh. Et toutes les bonnes idées sont à prendre, toutes les idées sont à prendre pour les analyser, pour les comprendre et pour les développer. Donc maintenant, il faut qu'on pense le futur. Mmh. Et donc le futur, c'est maintenant.
C'est une chanson d'Aurel San, je crois. J'ai trouvé le nom comme ça en rentrant du sport et cherché un nom pour le podcast. Tu vois, et le futur, c'est maintenant, ou maintenant, c'est le futur. Et je fais, OK, ça sera ça le nom du podcast. Merci, merci Caroline.
Merci Paul, merci à toi.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt !